I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si nous préparions 2022 pour devenir champion du monde de notre monde? Allez, c'est parti. Bonjour mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Vous le savez, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse, plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Et je suis là pour vous accompagner et aujourd'hui, je voudrais justement que nous parlions comment nous pouvons devenir champion du monde de notre monde l'an prochain, 2022. Bon, 2022, c'est plus si loin que ça maintenant, quand on y regarde. Et comment on va organiser cette année 2022 pour devenir champion du monde de notre monde? Car oui, c'est le moment d'y penser. Bah oui, parce que peut-être vous êtes aussi en période un petit peu de repos, de pause. Peut-être que l'hiver qui commence à approcher, vous refroidit un petit peu dans vos ardeurs à aller courir régulièrement. Peut-être vous n'avez pas envie trop de vous mouiller, le froid le matin. Hier, quand je suis parti courir, il faisait 2 degrés, il pleuvait. Bon, si je courais pas tous les jours, je ne sais pas si j'y serais allé. Mais il y a un moment donné aussi où on va se dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais peut-être retrouver la motivation, l'amplifier? Comment je vais préparer, en fait, petit à petit, les choses qui vont m'amener à réussir des défis, peut-être même dont je ne me sens pas capable encore, mais comment je vais construire tout ça? Et donc, pourquoi on le fait maintenant? Parce que, bon, les moments de pause et de réflexion comme ça sont propices. On a le temps de réfléchir, on n'est pas dans l'action, on n'a pas de plan, on n'a pas de dossard encore, peut-être, ou alors peut-être on a un bout de dossard. Peut-être que des courses de l'an dernier se sont répercutées l'an prochain, allez savoir. Mais en fait, c'est aussi le moment où vous voyez passer sous vos yeux plein de courses, des inscriptions qui vous disent « ça y est, les inscriptions ouvrent ». Par exemple, le 1er décembre, vous avez un trail qui ouvre les inscriptions pour un trail en Bretagne, par exemple. Et puis là, vous avez eu Paris qui a déjà ouvert. Et puis peut-être vous dites « ah bah tiens, si j'avais un dossard pour le marathon de Paris, peut-être, comme cadeau de Noël ». Bon, ça, c'est pas du tout impossible. Donc, il y a plein de petites courses comme ça, de choses qui passent. Et puis, vous voyez ce que préparent les autres, ce que les autres annoncent. Moi, par exemple, sur Instagram, l'autre jour, je voyais quelqu'un qui parlait de dire « tiens, il y a une dizaine de courses qui m'intéressent ». Et puis, bien sûr, vous savez aussi, vous avez les tirages au sort, vous avez les courses à points, les points pour avoir des courses, etc. Et puis, peut-être vous avez envie de voyager. Peut-être que cette année, vous avez été privé de marathon de New York et que l'an prochain, vous aimeriez bien le faire. Peut-être que vous aimeriez partir à Berlin ou je ne sais pas où. Et donc, il faut anticiper aussi, finalement, de se dire à quel moment je peux partir, comment je prépare tout ça. Et donc, là encore, il y a tout un tas de planification à faire pour se dire comment je suis capable de faire ça. Je parle même pas des marathons, des sables, au raid de la Réunion, des choses comme ça. Voilà, tout ça se planifie. On regarde un petit peu comment on va le faire. Et puis aussi, organiser votre progression. Sur quoi vous avez envie de progresser l'an prochain, finalement? Comment vous voulez progresser? C'est quoi, pour vous, la mesure de votre progression? J'en ai déjà parlé sur la progression, entre les progressions techniques, progression mentale, la progression physique, la capacité à se dire qu'on est capable de faire des choses. Donc la question qui va se poser là maintenant, c'est comment vous deviendrez champion du monde de votre monde l'an prochain? Qu'est-ce qu'il vous faut pour devenir champion du monde de votre monde l'an prochain? Et on va essayer d'y réfléchir ensemble. D'abord, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que il y a 3 grands temps dans cet objectif de devenir champion du monde de votre monde. Il y a d'abord votre rêve. Votre rêve de devenir champion du monde de votre monde, c'est quoi? De quoi rêvez-vous? Est-ce que c'est de course en particulier, de distance, du sentiment, d'une aventure bien particulière? Peut-être vous avez envie de courir dans le désert. Ça veut pas dire que vous devez faire le marathon des sables. Peut-être qu'il y a d'autres courses dans le désert. Peut-être que vous pouvez le faire en randonnant. Peut-être vous pouvez faire des treks, etc. C'est à vous de voir comment vous allez le faire. En fait, c'est pas forcément des dossards. Ça peut être aussi des défis personnels. Je pense par exemple à des personnes qui vont se reconnaître dont le défi c'était de faire 100 km de VTT dans les Vosges. D'autres pour qui ça va être de courir un marathon tranquillement dans son coin parce que c'est symbolique. D'autres qui étaient de traverser, rappelez-vous dans les invités que j'ai eu, j'en ai eu plein, ceux qui voulaient faire un marathon tout seul en sandales. Je pense aussi à ceux qui se disaient on va faire traverser traverser tel massif de montagne, ceux qui ont envie carrément, hein, je pense à Hermano notamment, qui veut traverser la France en swimrun. Bon, chacun a son truc. Il y a des gens qui vont dire, moi, je vais me concentrer sur des courses. J'ai envie de faire des courses en particulier. Moi, j'ai envie de faire des distances en particulier. Et puis d'autres vont dire, moi, j'ai envie de battre mon record. Voilà, je serai champion du monde de mon monde quand je vais battre mon record. Pour certains, peut-être, c'est de courir un marathon en moins de 3 heures. Pour d'autres, peut-être, c'est de courir un marathon, leur premier marathon. Chacun a son rêve. Chacun va construire son année en fonction de son rêve. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quel est votre rêve à vous. Hein, on peut en discuter, on peut échanger là-dessus si vous avez envie. C'est aussi le but du Hamster's Running Club, j'en reparlerai à la fin. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui vous est personnel. Quels sont aussi vos objectifs de vie? Pourquoi vous courez finalement? On revient sur cette question-là dont j'avais parlé sur l'épisode sur la motivation. Finalement, c'est quoi votre objectif de vie? Comment vous allez devenir champion du monde de votre monde? C'est aussi questionner ça. C'est vous dire finalement à quoi ça sert. Hein, pourquoi moi je cours tous les jours? Pourquoi je veux me lancer dans un défi Gravelman? Pourquoi j'ai envie de telle chose? À quoi ça me sert dans ma vie, dans mon quotidien? Pourquoi j'ai envie de le faire? Et comment ça m'aide à grandir, à vieillir, à mieux vieillir, à devenir un vieillard galopant? Vous savez, pour reprendre l'image que j'ai évoqué plusieurs fois, que Philippe Bélard avait déjà évoqué par le passé. Bon, maintenant que vous avez ce rêve, on va dire ces bouts de rêve, ce grand rêve peut-être que votre grand rêve, d'ailleurs, il n'est pas en 2022, il est peut-être en 2023, 2024, allez savoir, ça c'est personnel à vous. Hein, dans les invités qu'on a eus, certains m'ont dit l'an dernier, me disaient, moi mon rêve c'est d'aller faire telle course et puis faire telle course ensuite l'an prochain, puis encore l'an prochain, se voit sur 2-3 ans. Hein, par exemple, si votre rêve c'est de faire, faire les championnats du monde d'Ironman et que vous n'avez pas encore fait de triathlon, bon bien sûr vous savez que c'est pas en quelques semaines que vous arrivez à le faire, mais ça veut pas dire que vous n'arriverez pas à le faire. Hein, c'est tout simplement, ça veut dire qu'il va falloir placer les jalons et que ces jalons sont pas sur une seule année mais sont sur plusieurs années aussi. Bon, à partir de là maintenant il y a un plan et ce plan en fait c'est de vous demander comment vous allez concrétiser ce rêve, comment vous allez préparer finalement tout ce qu'il faut pour concrétiser ce rêve. C'est un temps de recherche parce que là-dedans vous allez devoir creuser ce que vous devez apprendre, sur quoi vous devez progresser, ce que vous savez déjà, ce qui vous manque, de qui vous devez vous entourer, ce que vous devez tester, ce que vous devez intégrer, ce que vous devez changer, les habitudes que vous devez prendre, celles que vous devez oublier, les changements que vous devez faire. Bien sûr, ça va bousculer aussi beaucoup vos habitudes parce que si par exemple vous courez maintenant des 5 à 10 km et que vous ambitionnez de courir par exemple un marathon, un 10 km, on peut le courir avec un entraînement, surtout si on vise pas un temps, on peut le courir avec un entraînement qui est relativement léger. Si vous voulez courir un marathon, il va falloir augmenter tout simplement la distance un petit peu dans toutes les séances, augmenter le volume dans la semaine pour être plus confortable, pour le faire d'une manière aussi confortable, avoir le sourire, que ce soit pas un moment de souffrance non plus. Attention, je vous dis pas que vous allez courir votre marathon sans souffrir, ça c'est autre chose. J'ai lu quelqu'un l'autre jour qui disait, si vous faites un marathon et que vous prenez le mur, c'est que vous l'avez mal préparé. Moi je suis pas d'accord avec cette vision là. Bon, on peut bien préparer des courses et puis le jour J ça peut mal se passer, mais en fait vous allez tout faire ce qu'il faut pour être prêt le jour J. Et ça, c'est un élément qui est important. Parce que le jour J, il peut se passer plein de choses. Mais il y a un élément qui est important, c'est qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce que vous maîtrisez vous pour arriver à être prêt le jour J? Et ça, c'est vraiment un élément important. Et c'est cette recherche-là qui va être importante. C'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour arriver à le faire? Quand je vous parle de cette préparation, je vous parle pas de plan spécifique. Et là, je voudrais faire une différence. En fait, il y a le plan annuel que va vous permettre d'organiser votre année, regarder comment vous allez finalement arriver à structurer votre année pour arriver à faire ces fameux grands objectifs, ces courses que vous avez envie de faire. Et puis, vous allez avoir des plans spécifiques pour préparer justement une course avec un objectif. C'est deux choses qui sont différentes. En fait, le plan spécifique, il va s'introduire finalement dans ce grand plan annuel. Et voilà. Et puis, une année, c'est faite de plusieurs plans spécifiques, probablement. Mais c'est ainsi, hein, comme ça, vous allez regarder votre année, vous allez regarder comment vous l'avez structurée, et puis au milieu vont se placer différentes périodes dont je vais reparler ensuite, et puis au milieu il y aura des plans spécifiques par rapport à une course avec un objectif en particulier. C'est là où vous allez introduire les fameux, plans de 8, 10, 12, 16 semaines pour préparer votre marathon peut-être, si votre objectif c'est de courir un marathon, et il va venir s'introduire sur une période de 2-3 mois, mais tout autour de l'année il y a d'autres choses, il y aura peut-être d'autres courses, d'autres marathons, peut-être que vous allez faire un trail, peut-être peut-être vous allez faire du vélo, peut-être vous allez faire de la natation, je ne sais pas quoi. Et donc c'est pour ça que finalement, il faut distinguer la planification globale de l'année telle que vous aimeriez la passer avec vraiment le plan spécifique pour une course en particulier. Puis vous dire, je le répète, que votre plan s'inscrit aussi sur plusieurs années. Bon, voilà, comment 2022 vous sert à préparer 2023, comment il vous sert aussi à préparer 2024, comment il vous sert à préparer votre vie de vieillard, bondissant et galopant. Moi, je vous donne un exemple. J'avais dit à un moment donné que je voulais faire de l'ultra. J'avais dit, je veux monter sur des distances ultra. Et je me suis questionné de me dire, mais finalement, est-ce que courir un ultra, est-ce que par exemple faire l'UTMB, ça serait mon rêve? Bon, pas vraiment. Pour l'instant, c'est pas mon rêve. Est-ce que faire 360 km en courant, c'est mon rêve? Non, pas vraiment. Par contre, il y a un truc qui me botte, vous savez, c'est faire un Ironman en 2023. Pour faire un Ironman en 2023, bien sûr, il faut courir. Bon, courir, pour l'instant, je sais que j'ai déjà fait un marathon, donc ça, bon, ça passe. Par contre, le vélo et la natation, ça passe pas très bien. La natation, j'ai testé avec le swimrun et je sais que j'ai beaucoup de progrès à faire. Et puis le vélo, eh ben finalement, j'ai fait beaucoup de vélo pour rouler quand j'allais au travail à une époque. Maintenant que je travaille à la maison, et ça fait un bout de temps que je travaille à la maison, ça fait 10 ans, et que maintenant que je fais plus de cours à droite à gauche, etc., mon vélo, il roule pas beaucoup. Et par contre, ben, pour faire un Ironman, il faudra que je fasse du vélo. Et donc, ben, l'étape pour arriver à faire un Ironman en 2023, pour moi, c'était de dire, il faut que j'augmente ma dose de vélo et il faudra aussi que j'augmente ma dose de natation. Mais je vais commencer... Par les circonstances, par mes envies, par plutôt augmenter ma dose de vélo. Et c'est pour ça que, plutôt que me dire je vais aller vers de l'ultra en course à pied, eh ben, j'ai plutôt allé vers de l'ultra cyclisme. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'est née mon envie, et puis en fait, avec quelques discussions avec aussi un certain Stephen Ullyarik, de faire un Gravelman en 2022. Bah oui, mon grand objectif de 2022, c'est de faire un Ironman. Mais c'est pas le seul. Je vais vous en reparler, j'en ai un ou deux autres qui commencent à germer dans ma petite tête. Et puis, ça va nous permettre finalement dans ce plan de planifier aussi l'année globalement pour regarder comment on va y mettre les périodes de préparation globale, la préparation physique, la préparation spécifique, la récupération. Donc tout ça, en fait, va permettre de regarder vraiment un petit peu, je dis pas qu'on va faire un planning précis, mais de regarder comment on va construire 2022 dans un objectif qui est vraiment important pour nous, c'est notre progression. Parce que finalement, ce plan, c'est planifier notre progression. Planifier votre progression, comment vous allez progresser, sur quoi vous devez progresser, à quel moment, sur quoi vous avez envie de progresser. Et ça, en fait, ça, c'est propre à chacun. En fait, la progression, c'est aussi de regarder les petits pas que je vais faire pour me rapprocher de mon rêve. C'est qu'est-ce qui dépend de moi. Et la progression peut être sur le plan technique, elle peut être sur le plan mental, elle peut être sur, par exemple, courir mieux, courir avec une foulée plus efficace, peut-être, plus de puissance, être capable de mieux monter, peut-être pour certains, être capable de courir plus longtemps, et pas forcément plus vite. Hein. Et puis pour d'autres, ça va être de courir plus vite, mais pas plus longtemps, chacun son truc. Et puis pour d'autres, ça va être sur la préparation mentale, de se dire, bah, mentalement, je me sens pas capable de faire telle chose, pour l'instant, et comment je vais me préparer mentalement à être capable de faire telle ou telle chose. Et ben ça fait partie en fait des éléments sur lesquels on va progresser et sur lesquels on doit planifier la progression. Du jour au lendemain, vous n'allez pas avoir une foulée plus efficace, par exemple. Du jour au lendemain, vous n'allez pas avoir un mental plus fort pour dire, aujourd'hui, je me lève, aujourd'hui, ça y est, je suis capable de faire ça. Non, le mental, il faut le regarder aussi comme quelque chose qui va se travailler, qui va peut-être se muscler, je ne sais pas si on peut dire qu'on va se muscler, mais en tout cas, on va nourrir notre mental avec nos différents éléments, la motivation et puis des outils, des choses comme ça, pour arriver à construire, à se rapprocher finalement de l'état où on se dit « Maintenant, je ne sais pas si je vais réussir, mais je me sens déjà beaucoup plus capable de le faire. » Et puis, bien sûr, on va regarder aussi quelles sont nos faiblesses. Hein. J'en ai parlé un peu sur le mental, mais on pourrait en parler sur le physique. On peut en parler sur la musculation aussi, peut-être. Vous ne vous sentez pas encore assez fort, par exemple, pour courir une distance particulière. Et là, je ne parle pas de force. Je parle vraiment de force musculaire, par exemple. Vous dire « Ah non, mais moi, je sais que quand je fais telle distance, j'ai des gens qui me l'ont dit, par exemple. Quelqu'un m'avait dit « Ah mais moi, dès que je dépasse le semi-marathon, mes jambes, elles tiennent pas le choc, je commence à ne plus pouvoir avancer, etc. » Bon, la personne qui m'a dit ça, faut voir à quelle vitesse elle court un 10 km aussi. Et c'est sûr que si on se projette de passer du 10 km au semi-marathon en voulant courir à peu près à la même vitesse, il y a un moment donné, c'est pas que une capacité, par exemple, à avoir une VMA élevée, c'est pas que des questions de VO2 max, c'est des questions de puissance, des questions de renforcement des jambes, etc. Mais finalement, c'est de se dire aussi, qu'est-ce qui me bloque? Quel est mon talon d'Achille? Quel est mon démon intérieur? Par exemple, mon démon intérieur, si vous vous souvenez de la première saison de Kilomètre 42, c'était de me dire que je me sens pas capable. Je me sens un coureur lent, déjà, ça c'est un de mes démons, mais aussi je me sens pas capable de courir un marathon. Est-ce que je suis capable de le faire? Et pourquoi je n'en suis pas capable? Et ça, ça remonte à des choses qui sont tellement plus anciennes, qui moi remontent à mon enfance, et je travaille dessus en ce moment, et qui remontent à mon enfance, et finalement le sentiment qui a toujours été là, que je n'étais pas capable de faire certaines choses, et que c'est ce qui m'a bloqué, probablement dans plein de choses, un auto-sabotage. Et cet auto-sabotage, c'est aussi quelque chose contre lequel je lutte, et une de mes faiblesses importantes, c'est l'auto-sabotage. Je sais que je m'auto-sabote depuis des années, et je me dis maintenant comment je fais pour progresser là-dessus. Et ça, je peux vous garantir que quand on s'auto-sabote pendant 30 ans, ben on se désabote pas en quelques heures, en quelques minutes, c'est pas comme ça. Donc il faut travailler aussi là-dessus. Et voilà les éléments, par exemple, hein, de faiblesse sur lesquels il faut aussi regarder. Et puis il y a aussi un élément, moi je pense aussi, c'est de regarder notre singularité. En fait, la singularité, c'est quelle est la manière dont vous allez faire les courses, les défis, comment vous allez les faire. Qu'est-ce qui fera votre singularité? Votre identité peut-être aussi. Vous avez plein d'exemples d'invités qui ont tous leur singularité dans leur manière de faire. Si vous réécoutez tous les épisodes, vous allez voir la singularité. Je parlais tout à l'heure de ceux qui ont couru en sandales, de ceux qui courent pour des grandes causes, ceux qui courent par rapport à leur histoire personnelle, ceux qui courent parce qu'ils ne s'en sentent pas capables, ceux qui ont le défi de voir toujours plus loin ce qu'ils sont capables de faire, toujours pousser. Puis vous avez ceux qui auront le défi peut-être cette année de faire, je sais pas, un marathon, mais avec une joëlette, en poussant une joëlette, en participant, en collectant de l'argent pour des associations, des choses comme ça. Rappelez-vous ceux qui nous ont parlé de leur défi ultra, qui avaient toujours diverses raisons. Il y a ceux qui veulent faire un défi ultra pour eux, et puis il y a ceux qui veulent faire un défi ultra aussi pour collecter de l'argent, pour avoir des grandes causes. Donc la singularité, en fait, c'est aussi finalement comment vous faites la course. Si on revient sur un marathon, par exemple le marathon de Paris, c'était Eglantine, rappelez-vous, quand on parlait du marathon de Paris d'Eglantine, elle racontait des petites histoires dans sa BD, elle raconte plein de petites histoires, et en fait, chaque personnage qu'il y a dans sa BD raconte un bout d'histoire, un bout de son parcours, et a son propre défi, sa propre singularité. Moi, ma singularité, quand j'ai fait le marathon de Paris, c'était de me dire, bah finalement, je le raconte, je vous raconte cette chose-là, je raconte ma perte de poids, je raconte mon rééquilibrage, je raconte aussi les étapes par lesquelles je passe pour finalement courir ce marathon et me dire j'en suis capable et comment je suis capable de le faire. Ça, c'était ma manière de le faire, en fait. Mon Ironman, le jour où je vais faire mon Ironman, ma singularité, c'est pas de me dire je vais pas faire un Ironman pour gagner l'Ironman. Je me lance pas dans le truc en disant j'aurais réussi mon Ironman si je gagne mon Ironman. C'est pas ça. Non. Ma singularité, ma manière de le faire, c'est aussi de vous raconter les choses, de vous dire comment je le fais, de finalement être plutôt ce podcasteur qui court ou ce coureur qui podcast, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le champion du monde de mon monde, il est à intersection là comme ça. Mais bien sûr, certains c'est le parcours, d'autres c'est l'équipement, d'autres c'est la cause. L'épisode de la semaine dernière avec Iliès, vous voyez bien que sa singularité, c'est d'enchaîner les kilomètres d'une certaine manière. Pour vous dire, hein, si vous l'avez pas suivi, le week-end dernier, il a fait 24 heures de vélo dans Paris. Certains ont fait 300 bornes en VTT dans les rues de Paris. C'est une singularité parce que c'est pas l'équipement, c'est pas le temps, c'est pas le matériel ou quoi que ce soit vraiment qui est important. C'est le fait de le faire. C'est aussi le fait de le faire. Et tout simplement, comment ils vont le vivre et comment ils vont le vivre à leur manière. Et ça, c'est un élément qui est important. Et donc, c'est quelque chose sur lequel vous allez réfléchir parce que, bah, finalement, votre événement à vous, votre défi pour devenir champion du monde de votre monde peut ressembler à celui du voisin, mais sauf que vous n'allez pas le vivre de la même manière. Vous n'allez pas le vivre, l'intérioriser, vous n'allez pas le préparer de la même manière. Et c'est aussi ça, être champion du monde de son monde. C'est que finalement, eh ben, on est tous au départ des mêmes courses des fois, mais on a chacun une manière de devenir champion du monde de notre monde. Et puis bien sûr, le troisième temps, c'est l'action. Hein, tout ça, la préparation, le rêve, la planification, c'est pour préparer l'action. Aujourd'hui, je ne vais pas vous en parler, mais vous savez bien que dans l'action, c'est l'entraînement, la course, le défi. C'est comment vous faites les choses pour que ça se réalise et comment vous êtes prêt le jour J. Et comment le jour J, finalement, vous seriez dans cet état, j'ai envie de dire un peu de flow, vous savez. C'est cet état où tout va se dérouler, vous êtes prêt et tout va se faire comme ça. Votre cerveau, votre corps, tout est prêt pour que tout se passe comme vous l'aviez peut-être envisagé. Peut-être ça se passera pas tout à fait de la même manière. Mais à un moment donné, le flow, vous savez, c'est on est tellement dans son monde, dans son truc, on oublie un petit peu où on est et on est juste là à apprécier l'instant présent. Bon, voilà. Là, on a placé un petit peu les bases. Maintenant, en pratique, comment ça va se dérouler cette histoire-là? Eh ben, pratique, moi ce que je vous propose, c'est d'abord de commencer par lister les courses et les défis que vous voulez vous lancer. Qu'est-ce que vous avez envie de faire sur 2022? Voilà. Et puis après, vous pouvez aussi réfléchir sur 2023, etc. Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire sur 2022? Est-ce qu'il y a des courses en particulier? Listez ce qui vous fait rêver. Est-ce que ce sont des défis? Est-ce que ce sont des lieux où vous voulez aller? Des événements que vous ne voulez pas rater? Ça peut être des choses qui sont précises. Par exemple, vous avez envie de courir le marathon de Paris. Ou des choses qui sont imprécises. Hein, encore vagues. Je veux courir un marathon. Mais je ne sais pas encore lequel. Est-ce que c'est un marathon de printemps? Est-ce que c'est un marathon plutôt de l'été, de l'automne ou je ne sais pas quoi. C'est des choix qui sont différents parce que finalement, si vous voulez courir un marathon de printemps, bon ben la préparation commence dans pas longtemps. Si vous voulez courir un marathon à l'automne, vous avez plus de temps, ça vous laisse plus de marge. Donc là, déjà, listez un petit peu ce qui vous fait rêver. Donc ça peut être courir un marathon, je rêve de courir un marathon, je rêve de faire un ultra. Ou alors ça peut être quelque chose de précis. Je rêve de faire telle course, je rêve de faire le marathon de Paris, je rêve de courir le marathon de Berlin, le marathon de New York. Et regardez aussi les courses qui ont peut-être un sens particulier pour vous, les événements que vous n'avez pas envie de rater, par exemple peut-être une course caritative, l'anniversaire de la première course que vous avez faite, par exemple moi c'est un truc, bon l'an dernier c'était pas possible, mais il y avait chaque année j'allais faire le trail, ce que j'appelais mon trail anniversaire, qui est pas mon anniversaire, le jour de mon anniversaire, mais qui est finalement le trail, le premier trail que j'ai fait. C'est un trail de 13 kilomètres. Premier trail auquel je m'étais inscrit et j'étais allé en disant je ne suis pas capable de le faire. Pour anecdote, j'avais dit à l'organisateur, quand je retire mon dossard, je dis bon, il passe devant la maison, si je me sens fatigué, je pourrais m'arrêter et je laisserai le dossard devant la porte. Mais chaque année, j'y suis retourné. Alors une année, j'ai fait encore à nouveau le 13 et puis l'année d'après, j'avais fait le 24 ou 25 kilomètres, etc. Et puis une autre année, je pourrais y retourner en faisant le 13 en disant je vais essayer de le faire plus vite ou faire les montées en courant plutôt que de les faire marchant. Vous voyez, on peut se mettre plein d'objectifs, mais en tout cas, il est plutôt symbolique. Cet objectif-là est plutôt symbolique plutôt qu'être un objectif vraiment de dire c'est vraiment un gros objectif qui me fait rêver. C'est plutôt le symbole de repasser à ce moment-là, de dire bah tiens, je me rappelle qu'il y a quelques années c'était ma première course et symboliquement bah j'aime bien revenir la faire. Et puis ça peut être aussi des courses caritatives, par exemple il y a une course contre le cancer, une course pour je sais pas, on pense Octobre Rose, vous savez que vous avez des courses féminines, il peut y avoir plein de choses comme ça. Et puis il peut y avoir ensuite bien sûr les défis personnels, vous dire bah tiens, moi mon défi dans l'année c'est j'ai envie de courir une distance de 50 km mais j'ai pas envie de le faire forcément dans un trail qui est organisé, j'ai pas forcément envie de le faire de telle ou telle manière, j'ai juste envie un jour, un week-end de partir courir 50 km ou d'aller faire 100 km de vélo pour voir ce que ça fait. J'ai envie un jour, rappelez-vous, je reviens sur l'épisode d'Ilias de la semaine dernière, quand il dit bah un jour j'avais décidé de faire le tour de Paris en courant. Bon, bah ça c'est un truc, par exemple, vous pourrez vous dire, mon défi, ça peut être de dire, bah tiens, je vais faire le tour de mon village, de ma commune. Alors après, ça dépend dans quelle commune vous habitez, pour certains, ça va faire plus de kilomètres que pour d'autres. Moi, j'ai pas regardé, si je faisais le tour de ma commune, combien il faudrait que je fasse de kilomètres, j'ai pas regardé, mais l'autre jour, c'était quelque chose que je me posais comme question, je me dis, tiens, ça pourrait faire partie, par exemple, d'un objectif, est-ce que c'est un grand rêve, je sais pas. On pourrait placer plutôt le tour de la communauté de communes, pourrait commencer à devenir un gros objectif, parce que je pense que ça ferait un bon ultra, vous voyez quand même, ça ferait pas mal de chemin, mais ça pourrait être, il pourrait y en avoir plein d'autres, hein, dire je pars de la maison, je monte au sommet du Puy-de-Dôme, ça doit faire, je sais pas, peut-être 30 bornes avec beaucoup de montées, vous voyez, bon, on pourrait avoir des choses comme ça. Bon, moi, dans mon année, qu'est-ce que je veux faire? Je peux dire, je veux faire un gravelman. Bon, je vous l'ai dit, ça fait partie 2022. J'ai placé, je veux faire un gravelman. Je veux courir le marathon de Lyon car c'est le jour de mon anniversaire. Boum, tac, voilà, c'est posé comme ça, ça c'est dit. Mais vous pourriez dire, bah je veux faire le marathon de Paris parce que mon rêve c'est de courir le marathon de Paris. Voilà, ça peut être ça votre rêve. Ou alors faire la course, je sais pas, Marseille-Cassis, Marvejols-Mende, les 100 km de Millau, enfin il peut y avoir plein de choses comme ça. Ou alors organiser vos propres choses. Mais en fait, ce qui est important, c'est de lister tout ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Et qu'est-ce qui vous fait rêver sur 2022? Mais qu'est-ce qui vous fait rêver peut-être sur une échéance plus lointaine? Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, quelque chose dont vous rêviez pour 2023, vous pourriez faire en 2022. Peut-être aussi que vous pourriez vous dire, bah, on va laisser une part de chance aussi. Faire des concours pour gagner de dossards, des choses comme ça. Hein, ça fait partie aussi de, finalement, des choses que peut-être vous n'avez pas prévoir, mais vous dire, j'aurais de courir un marathon, je sais pas trop lequel, mais je m'inscris à toutes les concours pour gagner un dossard pour un marathon, et le marathon que je vais courir sera un peu choisi par le hasard, mais en tout cas j'ai envie de courir un marathon quand même. Bon, pourquoi pas? En tout cas, sur votre liste, vous allez dire courir un marathon 2022. Bah voilà, c'est posé, c'est comme ça. Ensuite, vous allez faire le tri quand même. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous dire j'ai une liste avec 10 événements et je vais courir les 10 événements de la même manière. Parce que il y a tout simplement c'est pas si facile que ça. Même, rappelez-vous l'épisode avec Philippe Molimar où il a couru, il court un marathon presque tous les week-ends. On parlait que des gens courent des marathons tous les week-ends, mais ont couru des fois 10 marathons en 10 jours, voire un marathon par jour pendant un an. Voilà, on a des cas comme ça. On peut pas courir un marathon une fois dans l'année en se préparant en disant je veux battre mon record sur ce marathon-là, ou en faire 3-4 dans l'année en disant je veux courir en tel temps, et puis se dire, puis d'autres personnes à côté dire bah moi je vais faire un marathon tous les week-ends. On peut pas les faire de la même manière. Mais si votre objectif finalement est gros et que vous savez qu'il va vous fatiguer, qu'il va demander une préparation très particulière, très spécifique, bien entendu que vous savez que ça puise dans l'énergie, que ça puise dans l'énergie mentale aussi, que ça vous demande des contraintes d'organisation, de la logistique familiale, etc. Et que vous pouvez pas placer tant d'événements que ça. Si vous vous concentrez sur 3 grands événements déjà dans l'année, vous allez voir que quand vous allez les placer dans l'année, déjà vous prenez votre agenda, vous les placez dans l'année, vous allez vous dire que maintenant comment vous allez construire les choses autour. Est-ce que ça va vous priver peut-être est-ce que de fêtes de famille peut-être est-ce que ça va vous priver de certains moments que vous aimez bien d'habitude? Est-ce que ça va faire impacter sur vos vacances? Est-ce que ça va impacter sur d'autres choses que vous vouliez faire, des projets que vous avez par exemple dans la maison, des choses comme ça? Enfin, regardez un petit peu comment vous allez pouvoir organiser ça. Vous n'êtes pas obligé de vous dire que dans l'année vous êtes obligé de faire 12 courses. Vous pouvez vous dire que dans l'année vous ne faites que 3 grandes courses qui vous intéressent vraiment, qui vous font vraiment kiffer, qui font vraiment rêver, mais que celles-là vous allez vraiment les faire à fond, en les préparant vraiment à fond avec l'intensité que vous voulez vraiment mettre dedans. Et quand je parle d'à fond, je parle pas forcément de vitesse, je parle de l'intensité que vous allez mettre dedans, c'est-à-dire de dire je vais les faire en étant le plus en forme possible, en me sentant le mieux possible, en étant bien préparé, en faisant en sorte que j'ai jamais mal au ventre, en faisant en sorte que j'arrive en n'ayant pas d'ampoule, en n'ayant pas mal aux jambes, que j'ai vraiment apprécié le moment, que j'ai eu le temps de discuter, peut-être faire des photos, des vidéos, je ne sais pas quoi. Vous voyez, on a chacun sa manière de faire à fond, mais en tout cas, moi, je pense que si vous êtes sur 3 grands événements, déjà, c'est pas mal comme ça. Et puis, à côté de ça, vous allez dire, bon, j'ai d'autres trucs qui m'intéressaient. Eh ben, vous allez dire, faire des tris. Par exemple, vous auriez des événements de préparation. Et des événements de préparation, c'est les courses, les défis qui vous permettent de préparer ces grands événements. Par exemple, un semi avant un marathon. C'est traditionnel. Moi, avant le marathon de Paris, j'ai fait le semi de Vichy. C'est traditionnel. Il est placé un mois et demi avant. Vous regardez les calendriers des dates. Vous regardez un petit peu, les calendriers. Vous regardez un peu les calendriers des courses. Vous verrez que toujours à peu près un mois et demi avant le marathon de Paris, vous avez des semis qui sont placés un petit peu à droite à gauche, et quand vous allez faire ce semi-là, vous allez vous rendre compte qu'à côté, vous avez tous vos voisins qui vous disent « bah moi ce semi, c'est une semi-préparation pour le marathon de Paris ». On ne fait pas un semi de préparation pour un marathon comme on fait un semi de préparation comme on fait un semi si c'est notre objectif principal. Si vous faites un semi-marathon comme objectif principal et que vous voulez mettre un temps dessus, vous allez le faire à une certaine vitesse. Si votre semi-marathon est un semi-marathon de préparation de marathon qui arrive dans un mois et demi, ben, vous allez peut-être mettre une vitesse un peu différente, l'intensité. Peut-être vous allez plutôt vérifier que votre vitesse marathon, vous êtes capable de la tenir. Ou en tout cas, la tenir sur une partie du temps et peut-être accélérer sur la fin. Vous allez voir un petit peu les choses. Et puis, vous savez que ceux qui font du trail, on en a parlé avec certains invités, ils vont être aussi sur les week-end shocks, hein, 2 jours pour préparer physiquement, pour préparer le matériel, pour enchaîner les kilomètres, pour avoir le kilométrage de jours prévu. Par exemple, on prévoit un ultra sur lequel on va courir 30 heures. On va pas faire une préparation, un entraînement de 30 heures comme ça un week-end, mais sur 3 jours, on va faire 3 fois 10 heures pour avoir le volume, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça de stratégies, mais là qui vont vraiment rentrer dans des plans spécifiques. Mais au milieu de ça, c'est pour ça que vous avez placé des petites courses et des courses et des défis qui vont vous permettre de préparer ces grands événements. C'est aussi, par exemple, je place là-dedans aussi, par exemple, vous allez vous inscrire à une course pour avoir un dossard, parce que vous trouvez que le dossard, c'est plus sympa que d'aller faire une sortie longue toute seule. Par exemple, reprenons le cas d'une préparation marathon, on se dit, bon, une préparation marathon, j'ai un jour, faut que je fasse, j'ai 3 heures à faire. Bon, je vous donne un exemple comme ça, où j'ai un semi-marathon, où j'ai 30 km à faire. Bon, j'ai pas trop envie de les faire tout seul, j'ai pas quelqu'un qui pour faire avec moi et tout. Mais par contre, vous voyez qu'en même temps, il y a une course qui est organisée et qui correspondrait à la distance que vous avez besoin de faire. Pourquoi ne pas vous inscrire? Mais votre objectif, c'est pas d'être à fond sur la course, c'est vraiment de travailler par rapport à votre vitesse de votre préparation marathon. Et puis, vous avez aussi tout ce que j'appellerais les répétitions techniques, hein, je l'ai dit sur les week-end shocks, mais il n'y a pas que les week-end shocks. Vous pouvez vous dire que pour être prêt sur faire aller courir un jour, par exemple 50 km, peut-être que techniquement, les semaines avant, vous allez faire des fois des sorties de 25-30 km qui vont être pas que pour travailler le foncier, le souffle, le cardio, etc. Mais juste pour vérifier, par exemple, que votre sac à dos ne vous fait pas mal au dos. Oui, vous entraînez à courir avec des bâtons. Si vous avez prévu, par exemple, de travailler de faire votre course avec des bâtons, peut-être que faudra vous entraîner avec les bâtons, de voir, etc. Et toutes les répétitions techniques, voir si vous avez bien les bons bâtons, si vous avez tout le matériel, si l'alimentation passe bien aussi. C'est des choses dans le podcast sport et nutrition aussi, on en a parlé, par exemple. Un invité sur le podcast, sur le domaine du triathlon, qui, par exemple, teste sur tous les week-ends avant, il achète tous les ravitaillements, il achète la marque de ravitaillement qui sera proposée sur le triathlon qu'il fait, sur les triathlons longue distance, et il les teste avant pour être sûr que le jour où il va prendre le ravitaillement sur la course, vraiment sur la course, il sera prêt, qu'il va le digérer, et s'il sent qu'il ne digère pas, qu'est-ce qu'il a comme solution de repli? Bon, voilà. C'est une technique qui a bien marché parce qu'il a fait un Ironman et qu'il s'est qualifié pour les championnats du monde en Ironman ou en semi-Ironman. Donc autant vous dire que c'est des techniques qui marchent bien aussi. Et puis il y a aussi ce que j'appellerais des événements pour le fun. Les événements pour le fun, en fait, c'est les courses festives, c'est tout le reste en fait. C'est vous avez envie de vous faire plaisir, faire un truc un peu rigolo, un peu amusant ou un peu sympa. Ou c'est en fait les courses pour l'ambiance, le symbole, faire du tourisme, vous dire il y a une course qui est sympa. Bon, une fois, une année, je l'avais fait, et j'ai dit c'est une course qui passe au pied du Sancy, qui passe ça, il y a une belle vue, etc. Je vais prendre une distance plus longue parce que je trouve qu'elle sera plus sympa, il y aura plus de vues. Bon, il se trouve que le jour où je l'ai faite, il y avait le brouillard, on n'a rien vu, mais j'y allais pas pour me dire, j'aurais pu me dire, je fais le 13 km et je dis non, je vais faire la distance le double parce qu'il y aura une belle vue. Bon, j'y allais pour plutôt faire du tourisme, pour dire j'y vais pas pour travailler, pour faire une vitesse particulière, etc. Je fais vraiment pour le tourisme. Je prépare pas ça spécifiquement avec un plan, etc. Je me mets en forme, je suis en forme comme ça, mais je vais y aller vraiment dans cet esprit-là. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir construire votre année autour de ces événements-là. Il va être composé ensuite de plusieurs temps, bien entendu, mais ces événements-là vont structurer un petit peu les choses, et vous savez que vous allez pouvoir faire des sortes de comptes à rebours par rapport à ces périodes-là. Vous savez que vous allez avoir, alors surtout si par exemple vous prévoyez une coupure annuelle, qui peut être maintenant, qui peut être sur les fêtes de fin d'année, à vous de voir, vous savez qu'après une coupure annuelle, si vous faites 15 jours de coupure, déjà, on dit qu'on perd une bonne partie. Alors les pourcentages varient un petit peu selon les gens, entre la vitesse, entre votre capacité, le foncier, etc. Mais si vous avez des coupures qui sont plus longues, c'est encore pire, je vous garantis. Moi, après ma coupure de l'année, je vois à quel point il est difficile de remettre en route la machine, à quel point j'ai perdu de la vitesse. J'ai perdu 3 km/h en VMA, j'ai perdu du foncier, ce qui était facile à faire l'an dernier est moins facile à faire cette année. Que ça soit sur la vitesse, que ça soit sur la distance, sur l'endurance, etc. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour ça aussi que je cours tous les jours et qu'en volume de course tous les jours, maintenant, ça m'a permis de récupérer justement un bon volume d'entraînement, d'être capable d'en faire plus et d'être capable vraiment d'enchaîner plus. Et c'est aussi ce qui me permet de construire d'autres choses derrière. Mais vraiment, faut se dire qu'après une période de pause, même ça peut être une coupure où vous avez vraiment coupé, ça peut être une coupure où vous avez fait d'autres choses. Il y a un moment donné, il va falloir faire une remise en route, j'ai envie de dire. Et donc, vous savez que vous avez une période de remise en route où on fait surtout de l'endurance en mental, où on va courir tranquillement. Bon, j'ai envie de dire, moi, c'est ce que j'appelle mes balades running, c'est-à-dire faire de l'endurance en mental. C'est, vous savez, normalement, vous êtes capable de discuter en même temps. Ça vous permet de travailler le foncier. Et c'est important, ce foncier, parce que ce foncier vous permet de capitaliser, de travailler sur le capital qui va vous permettre ensuite de faire une préparation générale qui va permettre d'adapter le corps en fait pour ensuite faire les préparations qui sont plus spécifiques, les entraînements plus spécifiques. C'est là où j'en reviens aussi, vous savez, sur ma préparation générale, c'est ce que j'ai après appelé ma pré-préparation marathon. Une préparation marathon, vous savez que c'est 12 semaines ou 10 semaines qui sont vraiment à fond, sur lesquelles vous avez beaucoup de choses. Pour être prêt, pour encaisser physiquement la charge physique que ça va demander, il faut préparer le corps. Et c'est là où vous avez une préparation générale. Et c'est souvent, vous savez, la préparation générale, souvent on va dire, on va faire un peu de préparation physique, c'est-à-dire un peu de gainage, on va faire un peu des squats, des pompes, des choses comme ça, mais on pourrait faire carrément de la musculation vraiment réelle, avec vraiment plus de musculation. C'est-à-dire qu'on va soulever un peu plus de poids, renforcer plus les jambes, renforcer le haut du corps, faire des abdos, travailler les épaules, etc. Parce que ça participe à tout le maintien de la chaîne musculaire, et que quand vous avez le haut du corps qui est plus fort, vous allez une tenue de dos qui est plus facile, vous allez avoir plus de puissance dans les jambes, enfin tout va être lié en fait, vous aurez moins de fatigue, etc. etc. Donc, vous avez bien sûr cette période de remise en route qui va être suivie par une préparation générale du corps qui va vous permettre ensuite de basculer sur les préparations spécifiques. Et c'est là où vous rentrez dans les programmes d'entraînement spécifiques. Les préparations spécifiques sur un marathon, sur une préparation spécifique sur un semi, sur un 10 km, etc. vont être vraiment spécifiques à l'objectif, parce que si vous voulez courir un 10 km et battre vos records sur 10 km, il va falloir courir à des allures spécifiques. Si vous voulez courir un marathon juste pour le finir, vous dites, mon ambition c'est de le finir en 5 heures, et vous allez mettre une vitesse spécifique que vous allez travailler. Ce sont deux programmes d'entraînement qui sont très spécifiques. Je veux dire, vous n'allez pas pouvoir faire les deux en même temps. Vous pouvez pas préparer, vous dire, je vais battre mon record du 10 km, et en même temps préparer un ultra dans lequel vous allez courir à 6 km/h en moyenne et encore et marcher et puis passer des fois à des moments où vous allez être à 4 ou 5 tellement il y aura de la pente. Vous pouvez pas vraiment préparer les deux en même temps. On sait par exemple qu'en sortie d'une préparation marathon, on perd un peu de vitesse, mais on a par contre un gros foncier et après ce gros foncier qu'on a, on est capable d'enchaîner des kilomètres, donc on peut remettre ensuite de la vitesse dessus, on est capable de retrouver de la vitesse et on peut souvent d'ailleurs, s'il y a des cas, j'ai encore vu il y a pas très longtemps des gens qui battent un record sur 10 km avoir fait après une préparation marathon, parce que derrière leur préparation marathon ils ont réussi à refaire un peu de vitesse et avec le foncier ils étaient capables de retrailler de la vitesse, et donc quelque part le cumul des deux leur permet finalement de se dire l'enchaînement il est pas si mal que ça. Il me permet d'enchaîner différents événements, mais dans ces différents événements, il y a un petit moment de spécifique qui va se faire. C'est-à-dire que je vais faire du spécifique pour faire mon marathon, et puis derrière, ensuite, je vais faire un petit peu une petite phase de repos, et puis ensuite, je vais refaire un peu de spécifique pour retrailler ma vitesse, pour regagner en vitesse, etc. Et peut-être que ça va me permettre de battre mon record sur deux vitesses. Ça, c'est vraiment cette organisation-là que vous allez essayer de chercher, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une phase de recherche. Et peut-être que vous pouvez pas le faire tout seul, peut-être qu'il va falloir si vous êtes en club, peut-être vous avez des personnes que vous regardez, peut-être des livres, des podcasts que vous écoutez, des vidéos que vous regardez. C'est là où il y a une phase de recherche, de vous demander comment ça peut fonctionner, de regarder ce qui va fonctionner, de regarder ce que vous avez fait les années précédentes aussi, de regarder comment vous avez construit tout ça les années précédentes, comment vous avez vécu les années précédentes, et regarder comment vous allez être capable, finalement, d'imaginer tout ça. Vous êtes dans la phase aussi d'imagination, de construction. Et donc, je l'ai dit, il y a aussi à placer des phases de repos. Et puis, moi, je le dis, il faut placer aussi des moments de liberté, d'improvisation, des moments où, finalement, vous savez que vous serez peut-être pas à votre pic de forme, que vous savez que, par contre, vous aurez du foncier pour faire des choses. Vous dites, tiens, je me laisse ouvert à une course, je pars en vacances, s'il y a une course sur place, je la ferai. Moi, c'est un truc que je fais. Quand on part en vacances à Gruissant, par exemple, chaque année, d'habitude, il y avait une course. Suivant les moments où on partait dans l'année, il y avait une course. En juillet, il y en avait une, par exemple. Une année, je m'étais inscrite. Et puis en août, il y en avait une. Et une année, j'avais même dit, si on partait 2-3 jours plus tôt, j'aurais le temps de m'inscrire à la course. J'avais même fait une vidéo de cette course-là. Parce que j'avais fini à plat ventre dans une espèce de gros tas de boue. Vraiment, j'avais fait un gros plat ventre ce jour-là. Mais en fait, c'est comme ça. J'ai dit, à le moment de liberté, c'est je prépare pas cet événement-là spécifiquement ou quoi que ce soit, mais je me dis je sais que je suis en forme, je sais que je suis capable de courir les 10 km que ça demande. Si on est là-bas le jour où ça se passe, j'ai ma licence, j'ai mon certificat médical, je suis capable de m'inscrire et je participerai à cette course-là pour le fun. Voilà, c'est là où je parle aussi de course fun, de moments de liberté, d'improvisation, de choses comme ça. Et cette dernière remarque sur la liberté me mène à un élément qui pour moi est important, c'est la souplesse que vous devez avoir. Restez souple, soyez souple. On doit tous être souple, parce que quand on est trop rigide, en fait, on s'enferme dans des choses qui, au bout d'un moment, ça nous tape sur le système. Sur les préparations marathon, par exemple, c'est une discussion que j'avais eue avec des personnes qui ont préparé plusieurs marathons et qui m'avaient dit quelque chose comme moi, le temps idéal, quelqu'un m'a dit, moi, mon temps idéal, c'est 10 semaines. C'est 16 semaines, c'est trop long, j'ai fait 16 semaines, c'est trop long. 12 semaines, c'est pas mal, mais quand on fait en 12, on se rend compte qu'en fait, 10, ça va bien. Et moi, quand je m'étais posé la question de ma préparation marathon, si vous écoutez les premiers épisodes, pour le marathon de Lyon, que j'ai pas pu faire, mais j'ai commencé à préparer, j'étais sur une préparation de 12. Et finalement, sur la préparation de Paris, j'étais sur une préparation de 10, qui était pas tout à fait volontaire, parce que j'ai pris une grippe juste avant, j'ai pas été bien, j'ai été malade, etc. Le début de la préparation a été un petit peu tronqué par des choses. Mais en fait, une préparation marathon de 10, en fait, elle a l'avantage d'être assez condensée. Mentalement, psychologiquement, c'est plus facile d'être bien concentré sur 10 semaines que sur 16. C'est un truc qu'il faut prendre en compte. Et je parle aussi, il y a l'alimentation, il y a tous les efforts que vous allez faire, etc. comme ça. Et donc, c'est intéressant aussi de rester souple. Parce que si toute l'année est vraiment gravée en disant toute l'année, chaque semaine, je vais faire ça, ça et ça et ça, il y a un moment donné, ça va vous taper sur votre système à vous, mais aussi taper sur le système de votre entourage, de votre famille, de vos enfants, de vos amis. Vous avez peut-être contact avec des personnes que vous aimez bien. Et alors, je vous rappelle quand même que le but, c'est qu'on soit heureux, c'est qu'on soit bien tous, hein. C'est pas le but, c'est pas juste de dire chaque week-end j'ai un dossard. Non, le but, c'est finalement d'avoir le sourire, d'avoir le bonheur, d'être, de s'en sentir bien, etc. Et se sentir bien, c'est aussi de pouvoir profiter de ce qu'il y a autour. Donc, c'est pour ça que je garde la souplesse. Ensuite, quand même, il faut se dire que si votre objectif est exceptionnel, vous devez avoir des contraintes exceptionnelles, mais la souplesse, c'est de vous dire que vous l'aurez pas toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous allez mettre de l'intensité, des contraintes exceptionnelles pour atteindre votre objectif exceptionnel, et qu'après, vous allez aussi vous lâcher la grappe, écouter votre corps. Il faut écouter nos sentiments, nos émotions. Notre corps nous parle. Quand notre corps, il a une petite douleur quelque part, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. C'est pas un muscle qui s'est arrêté de fonctionner. C'est notre corps un message à nous faire passer en disant écoute, là, à un moment donné, moi, je me sens pas capable, j'avance plus, etc. Ralentis un petit peu, mon gars, hein, ralentis un petit peu. C'est ce que, l'an dernier, ma pause annuelle que j'avais faite vraiment sur l'automne, était vraiment là-dessus. C'est que je sentais, au mois d'octobre, que je n'avançais plus, je n'avais plus d'énergie, et que les petites douleurs que je pouvais avoir, etc., étaient vraiment un message qui m'était envoyé en disant, là, il est temps de ralentir, de s'arrêter, de prendre le temps, t'as plus la motivation, t'as plus la volonté de le faire, ça sert à rien de pousser, ralentis et repars. Et c'est pour ça la souplesse aussi qu'il faut l'avoir. Peut-être que dans votre année 2022, vous aimeriez faire telle ou telle chose, et vous allez vous rendre compte que bah, au moment de démarrer la préparation, vous sentez pas bien. Ou alors, vous le sentez, mais vous sentez fatigué, etc. Et vous sentez au fil des semaines qui passent que ça passe pas. Bah, vous avez le droit aussi de vous dire, il y a des choses que je dois revoir. Mais vous avez le droit de le dire, de regarder, mais aussi de vous demander pourquoi. Et quand vous planifierez 2023, et ben vous direz ben peut-être que 2022 j'ai été trop gourmand, trop ambitieux. Peut-être que finalement préparer un marathon sur l'été avec la chaleur c'est pas mon truc. Que plutôt je suis sur une préparation de marathon ou préparation de course ultra, etc. De quand je dois faire beaucoup d'endurance, courir longtemps, etc. Je dois plutôt le faire sur une période où il fait moins chaud parce que moi l'été je suis pas capable de courir. Moi c'est l'inverse. Moi je vous le dis, moi l'été, moi mon truc c'est bien, je peux partir courir très tôt, je suis capable de partir courir à 4h30, je fais mon lever de soleil, etc. Je suis super content, et j'aime quand il fait chaud aussi, ça me dérange pas du tout. Donc ça me dérange pas. Ça, c'est chacun, c'est un truc qui est vraiment très personnel à nous tous, hein. Chacun, on a notre mode de fonctionnement. C'est comme on a nos modes de fonctionnement à la journée, hein. Si vous connaissez un peu les techniques des chronotypes, donc il faudrait que je fasse un épisode un jour sur le sujet, mais qui explique aussi pourquoi il y en a qui aiment s'entraîner le matin et d'autres qui aiment s'entraîner le soir. Pourquoi moi, j'ai beaucoup de mal à m'entraîner à 17h, mais j'ai aucune difficulté à m'entraîner à 7h du matin ou à 5h du matin même. Ce que je vais faire les week-ends, hein, je vais courir à 5h du matin des fois, entre 5h et 6h. J'ai fait des séances longues, préparation marathon, entre 5h et 7h du matin. Donc pour des questions de créneaux de temps, etc. Mais je suis capable de le faire. Là où d'autres vont plutôt les faire le soir et vont aller courir à 20h, entre 20h et 22h. Ça, c'est vraiment des questions de comment on fonctionne, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut garder un peu de souplesse, planifiez pas votre année. Et moi, je me dis, par exemple, que si on planifie 50% de l'année à peu près, avec les grands événements, les préparations spécifiques, etc. Et que le reste, on se dit, bon bah là, c'est plutôt de la préparation, de la remise en route. Et là, c'est plutôt de la préparation générale, etc. Mais je me laisse le choix de faire une course, de faire un événement, d'accepter d'aller courir avec telle ou telle personne. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un petit truc qui était là, j'ai vu qu'il y avait une préparation. Par exemple, vous savez, par exemple, sur les trails, souvent, vous avez les semaines avant, vous avez les clubs qui organisent ça, qui font des sorties de reconnaissance, des recos. Ben, on peut dire, je vais faire une reco. Tiens, vous avez vu qu'il y a une reco qui est faite avec un coureur un peu connu qui vient. Voilà, vous voyez, des choses comme ça. C'est là où je dis qu'il faut garder un peu de souplesse, il faut profiter un petit peu de ce qui va passer tout autour de vous. Regardez aussi, par exemple, les testings des magasins. Souvent, vous me demandez, bah, tiens, j'aimerais bien tester telle marque de chaussures, mais je sais pas trop comment faire, je sais pas si ça va aller, j'ose pas les acheter. Et moi, je dis, bah, regardez s'il y a pas des testings en magasin. Souvent, les testings en magasin, c'est un jour, ils donnent rendez-vous, ils vont dire, bah, on va courir 7 ou 8 kilomètres. Bon, bah, c'est peut-être pas ce que vous avez prévu dans votre plan d'entraînement, mais ça vous permet de vous rencontrer d'autres personnes, ça vous permet de tester la marque, etc. Moi, je sais qu'il y a une fois, j'ai eu un testing qui était placé en plein dans une préparation, par exemple, je sais plus ce que c'était swimrun, vous voyez, des choses comme ça. Bon, bah, il tombe pas très bien. je réorganise ce qui va autour. J'étais même allé au testing en courant pour vous dire le truc. J'avais couru, etc. Et ensuite, j'étais rentré. Donc, ça m'a permis, par exemple, d'avoir une sortie qui était longue comme prévu. Mais au milieu, dans la partie testing, il y avait des gars qui avaient un peu allumé au niveau de la vitesse parce qu'ils voulaient tester voir un peu ce que ça donnait en vitesse. Bon, bah, j'ai dit, hop, ok, ça me fera une partie un peu de vitesse, etc. Et ça va bien. Et ça va bien. Derrière, ensuite, je me réadapte. On est souple. Il faut être souple quand même dans cette histoire-là. Et donc, vraiment, vous avez là, quand vous avez structuré tout ça, je vais vous rappeler un petit peu la structure, hein, vraiment, pour résumer, pour faire une conclusion à tout ça. Le rêve, quel est votre rêve? De quoi vous rêvez sur cette année 2022, l'année 2022? De quoi vous rêvez? De quoi vous rêvez aussi sur 2023, 2024? Qu'est-ce que ça vous permet de construire? Moi, je sais que je vous dis 2022 Gravelman, 2023 Ironman, 2024 Marathon Paris, vous savez, Open Marathon Olympique, etc., le jour de courir le marathon. Ce qui veut dire que pour être présent, par contre, au marathon 2024, il faut faire les points, il faut marquer des points, etc. Ça veut dire aussi qu'il faut faire du volume sur 2022, 2023 pour marquer des points, avoir la chance de décrocher le dossard. Mais ça veut dire aussi que peut-être il faut être ouvert à certains événements dans lesquels il y aura des événements qualificatifs qui permettent, vous savez, l'autre jour, il y avait une course contre Kipchoge, des choses comme ça, de se dire qu'il y a des moments, il faut avoir la souplesse pour être capable de le faire, pour être capable d'aller dire, bah, tiens, je suis capable de participer à tel truc. J'ai vu que telle course, si je la fais, si je la finis, ça permet d'avoir un dossard pour faire ça, par exemple. Ça, c'est Stéphane. Rappelez-vous Stéphane, notre ami suisse, qui, je l'avais invité, quand il parlait de préparer la Diagonale des Fous, il disait, ben, je sais que si je fais telle course qui est partenaire de la Diagonale des Fous, si je la termine, j'aurai mon dossard pour aller faire la Diagonale des Fous. Mais il avait dit ça l'an dernier, et la Diagonale des Fous, c'est cette année. Donc c'était vraiment sur un objectif à 2 ans, vous voyez. Et il avait construit vraiment de cette manière-là. Donc votre rêve, il est comme ça. Il y a le rêve de 2022, il y a les rêves de 2023, 2024. Concentrez-vous sur votre rêve, regardez ce que ça donne comme objectif de course, comme quelles sont les courses que vous avez placées, les défis que vous avez placés, est-ce que ce sont des courses officielles, des défis personnels, des off, hein, tout ça, tout ça, tout ça. Regardez ça, faites une sélection et à partir de là, ça va vous permettre ensuite de faire un plan, vraiment de planifier, en regardant comment vous allez finalement structurer les grands objectifs, des objectifs un petit peu intermédiaires ou de préparation. Regardez comment vous allez mettre en-dessus de ça la préparation au milieu de tout ça, c'est-à-dire des plans de préparation, préparation mentale, préparation physique, préparation musculaire, etc. Comment vous allez ensuite planifier, organiser tout ça. Regardez quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, comment vous avez envie de le faire, est-ce qu'il y a une singularité? Parce que, je le dis, hein, franchement, hein, c'est que vous pouvez faire la même course que votre voisin, mais la vivre d'une manière très différente, la raconter aussi d'une manière différente à votre entourage, etc. Et la vivre là, et avoir un ressenti de réussite qui sera vraiment très différent selon les personnes. Y a des personnes qui courent un marathon en 4 heures pour qui c'est une grande réussite, et d'autres qui courent un marathon en 4 heures pour qui c'est un gros échec. Et pourtant, le chrono est identique à la fin, vraiment identique à la fin. Et on peut regarder toutes les courses, tous les événements, c'est toutes les mêmes choses. Moi-même, hein, quand je vous rappelle mon trail anniversaire de l'an dernier, qui était vraiment le jour de mon anniversaire, un jour près, quand je me fais doubler par le fameux vieux papy dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, j'en finis un peu dégoûté sur l'instant, parce que dans ma vision des choses, j'avais préparé cette course-là pour la faire plus rapidement, etc. J'arrive cuit, sans énergie, sans rien et tout. Ben, je le vis mal, alors que si j'étais allé en me disant, ben, tu vois, c'est un truc pour le fun, etc., le même temps que je faisais, je l'aurais vécu bien mieux, voilà. Bon, c'est comme ça aussi qu'il faut voir aussi un petit peu les choses. Et donc, regardez tout ça, et puis, soyez souple, gardez de la souplesse là-dedans. Maintenant, pour terminer quand même, je dois vous dire que mon plan à moi n'est pas encore fait, c'est pas, je vous ai donné des grands points de passage. Je vous ai pas donné tous mes grands points de passage. Déjà, vous savez que je suis dans mon objectif de courir tous les jours. Et dans courir tous les jours, c'est de fêter les grandes étapes. Aujourd'hui, on est en jour 114, 115 dans ces zones-là. Dans ces zones-là, vous voyez. Bon, bah, je me dis, il y aura des événements à passer. Courir le jour de Noël, courir le jour 200, la moitié de l'année, vous savez, à peu près le jour 185 dans ces zones-là, jour 365, bien sûr, bah, comment je fêterai mon un an de course, par exemple? Bah, il faudra bien le fêter d'une manière ou d'une autre, vous voyez, donc il y aura un truc comme ça. Un autre élément, c'est mon Gravelman. J'ai décidé de faire un Gravelman en 2022. Gravelman, je vous renvoie sur l'épisode que j'ai fait avec Steven Ollerich, j'en ai fait deux avec Steven Ollerich, un sur sport et nutrition et un sur Kemen 42, où on avait parlé justement de l'aventure à vélo, de l'ultra vélo, etc. Et je vais même lancer un podcast qui s'appellera Kilomètre 350 pour vous raconter l'aventure Gravelman sur 2022. Vraiment, ça c'est le truc Pourquoi ? Je le répète, c'est que mon objectif, c'est de faire l'Ironman sur 2023, mais j'ai besoin de travailler le vélo, j'ai besoin de faire du vélo, j'ai besoin d'avoir, d'acheter un vélo déjà, d'avoir prendre l'habitude de faire du vélo, de rouler, parce que un Ironman, c'est 180 km, un Gravelman, c'est 350. Alors vous allez me dire, ouais, ben, pourquoi faire le double ? Parce que je veux l'aventure, en fait, parce que je veux le côté aventure. En fait, Stephen Murray, quand je vois ces trucs et tout, il me vend de l'aventure, faire partir deux jours comme ça et autres, il me vend de l'aventure. Et je parle même pas des gens comme Lilian, avec ses micro-défis, etc., avec son histoire de « il part le soir et puis il rentre le lendemain matin », etc. Tous ces trucs-là, ça me met en tête. Et je vous raconte même pas, en fait. J'ai d'autres invités hein, qui sont planifiés et tout. Il y a d'autres trucs d'aventure, de germes un petit peu en tête. Tous les invités que j'ai pu avoir, ils me font progresser dans ma vision des choses, etc. Cette année, ça sera une année sans dossard officiel. Vraiment, il n'y a aucun dossard officiel. J'en ai pris aucun. J'en ai aucun qui, pour l'instant, sur lequel je suis inscrit. Je ne serai pas inscrit à une course sur la fin de l'année. Je vais me faire mes propres dossards. À la limite, si j'ai envie d'avoir un dossard, je ferai mon propre dossard pour mon propre défi. Hein, ça sera mon truc à moi, mais il n'y a pas ça. Par contre, l'an prochain, vraiment, ce qui me ferait, ce qui est vraiment sur quoi je me suis focalisé, c'est me dire, je veux faire un gravelman parce que je veux le côté aventure, je veux le côté vélo, je veux faire plus de vélo, je veux préparer tout ça. Et puis, il y a un truc qui me trotte dans la tête, c'est un marathon le jour de mon anniversaire. Si j'ai bien calculé mon coup, mon anniversaire, c'est un dimanche. Et donc, il y aura forcément un marathon ce jour-là. Et avec un peu de chance, vous savez quoi, ce sera le marathon de Lyon, celui que j'aurais dû faire comme étant mon premier marathon. Et bah oui, avec un peu de chance, ça va se goupiller comme ça. Le 2 octobre, hein, j'ai pas vérifié si vraiment il l'avait fait, si on pouvait prendre les dossards ou quoi que ce soit. Mais vraiment, vous voyez, moi, la date, elle est cochée dans mon calendrier. Celle-là, je l'ai cochée en me disant, le jour de mon anniversaire, je veux courir un marathon. Bon, bah voilà, c'est mon truc, ça sera comme ça. Et puis, j'ai un truc. Et là, je l'ai pas trop dit, mais vous le savez un petit peu si vous me connaissez. Dans ma perte de poids, il y a toujours un truc, c'est l'aspect physique, un petit peu. C'est un truc qui me travaille, voilà, c'est comme ça, c'est personnel, c'est une motivation personnelle. Là aussi, j'en parlerai avec des invités, parce que j'ai un ou deux invités en tête qui vraiment sur lequel on pourra parler de ce sujet-là un petit peu pour avoir de l'aide, leurs conseils, voir un peu comment ils ont fait. Mais j'ai toujours dit qu'en fait mon but du jeu à moi, c'était pas d'être un gringalet pas musclé, etc. J'ai pas envie non plus d'avoir un corps flasque, parce qu'avec la perte de poids, forcément la peau du ventre, ça devient tout mou, etc. Moi, mon truc à moi, ça serait d'avoir des abdos, ça serait d'avoir un corps un peu plus musclé, etc. Et j'ai envie d'avoir une transformation physique un peu plus visible, voyez. Et c'est extrêmement personnel. Ça vous explique aussi certaines questions que j'ai pu poser dans certains épisodes du podcast avec je pense à Caroline par exemple. On avait parlé un peu de certains complexes qu'on peut avoir en tant qu'homme, etc. C'est très personnel, c'est ma vision aussi, c'est-à-dire que c'est juste la vision de quand on se regarde dans la glace et qu'on se voit encore gros alors que finalement on a perdu 27 kilos. Il y a un moment donné, dans ma tête, j'ai un truc et j'ai envie de passer, de voir ce que ça ferait, d'avoir tout simplement d'être un peu plus musclé, voilà, un peu plus par rapport à l'image que je me faisais quand j'ai commencé à perdre du poids. C'est très bête, mais je le dis très sincèrement. C'est vraiment ma vision que j'ai moi comme ça, et qui va m'aider aussi à construire la suite. C'est-à-dire que le fait d'être plus, d'avoir un renforcement musculaire plus présent sur la partie haute du corps, je l'avais dit, m'aide à courir mieux, mais ça aide aussi, par exemple, pour la natation, ça aide aussi pour être mieux, par exemple, pour rejoindre ma fille, pour porter des choses à la maison, etc. Faut pas se dire que les muscles ne servent que à la beauté physique du corps. Ils servent aussi, finalement, quand on a un corps plus renforcé, plus musclé, etc., ça sert aussi à faire d'autres choses et à le faire plus facilement, etc. Y compris, d'ailleurs, si on parle de vélo, s'il faut porter son vélo, parce que je vous rappelle quand même, on n'est pas avec Stephen Yarrick quand il fait sa traversée du Népal en vélo, etc. Ses aventures, il y a une partie du temps où il porte son vélo, et porter son vélo sur plusieurs kilomètres, quand c'est un vélo, quand il y a un peu de poids, etc., si vous devez porter un sac à dos aussi, il faut aussi le renforcement musculaire, etc. Donc il y a tous ces aspects-là qui peuvent nourrir. Mais moi, je le dis aussi, soyons clairs, hein, il y a le côté physique, renforcement physique vient aussi pour le côté aspect physique, hein, visuel. Voilà, visuellement, j'en ai marre d'avoir ce ventre, de me sentir plus gros que je ne suis, parce que quand je me regarde dans la glace, c'est ce que je vois aussi, et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler. Donc vous voyez, mon champion du monde de mon monde, c'est un petit peu ça dans l'année qui vient. C'est courir tous les jours, fêter les grandes étapes, gravelman, marathon d'anniversaire, transformation physique, et tout ça en étant podcasteur, en étant créateur de contenu, en faisant des vidéos, en faisant du podcast, en vous racontant tout ça. Donc tout ça, c'est comme ça que je veux le faire. Et il y a une autre manière aussi de le faire, c'est aussi de le faire à travers le Hamsters Running Club, la communauté autour du podcast. Et là, ce que je vous propose, en fait, ceux qui ne sont pas encore membres, venez, là, il y a un lien dans les notes de l'épisode, vous venez vous inscrire, l'inscription est gratuite. Et en fait, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on partage chacun notre rêve, comment vous avez envie de le préparer, vous, comment moi je vais le préparer, comment on va raconter ça. C'est-à-dire de créer, je vais créer une section, un endroit, pour que chacun, les uns les autres, on vienne partager notre rêve et qu'on raconte au fur et à mesure comment on va le faire. Venez échanger, profiter des conseils, trouver de l'encouragement, venez encourager les autres, regardez si vous ne trouvez pas d'autres membres à proximité qui pourraient vous encourager, qui pourraient vous aider, avec lesquels vous pouvez aussi vous entraîner, faire des sorties, vous rejoindre sur des courses, peut-être, pourquoi pas, etc. Et vous savez aussi que l'an prochain, j'avais annoncé, il y aura un fil rouge avec certains d'entre vous. Il y en a certains que j'ai déjà invités à venir raconter comment ils vont devenir champions du monde de leur monde aussi. Mais en fait, ce que j'ai envie, c'est que dans le Hamsters Running Club, on raconte tous comment on devient champion du monde de notre monde et comment on aide les autres à devenir champion du monde de leur monde aussi par les encouragements. Donc, le Hamsters Running Club, à l'intérieur du Hamsters Running Club, il y aura des contenus spécifiques autour de ça. Il y aura une rubrique spécifique dans laquelle vous pourrez venir chacun annoncer quel est votre rêve, comment vous allez devenir champion du monde de votre monde, comment vous allez le faire, comment vous avez envie de le faire, quelles sont les planifications que vous allez faire, et que les gens puissent vous encourager, comment vous encouragez les autres. Donc je vous encourage à venir dans le Hamsters Running Club, parce que ma pensée, ma philosophie, mon utopie, on pourrait l'appeler comme on veut, c'est que ensemble, nous deviendrons tous champions du monde, notre monde à nous. Et c'est ça l'objectif de Kimmel 42, c'est vers ça que je veux aller, c'est vers ça que je tends tous les jours, quand je réfléchis aux épisodes, quand je réfléchis au contenu que je vous propose, quand je réfléchis aux invités que j'invite sur le podcast, c'est comment tous les invités, comment tout ce que les épisodes, comment tous les conseils qu'on peut avoir nous aident tous à devenir champions du monde de notre monde. Et il y a une partie importante, c'est comment l'exemple des autres, de ceux qui nous ressemblent, c'est pour ça que je tiens tout particulièrement aux épisodes Dernier Ravito, où j'invite finalement des membres aussi du Hamsters Running Club, où j'invite des gens qui sont comme nous, qui ont le même parcours. Et là, j'en ai quelques-uns aussi que vous allez découvrir dans quelques temps, que j'ai invités justement pour venir parler de tout ça. Et ben comment finalement on arrive tous à devenir champion du monde de notre monde, comment on s'inspire tous les uns les autres, comment on s'encourage tous les uns les autres. Voilà, c'est ma grande ambition. C'est la grande ambition pour aussi 2022, puis les années qui viendront, c'est qu'on soit tous champions du monde de notre monde et qu'on le fasse tous ensemble. Voilà, sur ce, je vous attends maintenant de l'Hamsters Running Club. Vous trouvez tous les liens en note de l'épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.